Homère, Apollonios de Rhodes, sirène, vers grec, vers latin, musique de perdition et mer tyrrhénienne. Aujourd'hui, sentiments océaniques et figure du plongeur avec Pascal Quignard.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Bonjour à toutes et à tous. La compagnie des poètes se jette à l'eau pour cette première émission de la saison. Ravie de vous retrouver enfin. Viens avec nous, disent les sirènes très vampes de Franco Rossi à Ulysse dans son Odyssée télévisuelle en 1968. Viens ici, appellent les sirènes lorsqu'elles partent aux Argonautes, lorsqu'elles chantent pour les Argonautes chez le poète Apollonios de Rhodes. Appel entendu par Pascal Quignard le temps d'un petit livre paru aux éditions Galilée en 2008, au centre duquel il place Boutès, le seul des Argonautes qui sauta du navire Argo pour s'approcher du chant des sirènes, le seul qui refusa de boucher ses oreilles à la cire de miel, Boutès le plongeur donc, Boutès l'oublié aussi, celui qui nous dit qu'entendre la musique, c'est répondre aux besoins brûlants de s'en approcher, Boutès qui sera demain au château de Montaigne avec Aline Piboul au piano et Pascal Quignard pour un récital. Une rentrée par-dessus bord donc, avant que l'émission ne reprenne son cours multiple, celui de la poésie telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle s'entend, se cherche et parfois quitte ses ports d'attache. D'ici là, c'est Pascal Quignard, en plongeur, qui nous reçoit chez lui. Bonjour, merci de nous accueillir pour cette heure chez vous, à Paris, parmi vos livres, on y reviendra. Ce qu'on vient d'entendre devrait résonner plus longuement ce samedi soir dans les jardins du Château de Montaigne à Saint-Michel-de-Montaigne pour le festival Littérature en Jardin. C'est le piano d'Aline Piboul qu'on vient d'entendre, une retranscription pour piano de La Mère de Debussy par Yann Olivo. On y entendra encore Schubert, Chopin, si je ne me trompe pas, Ravel, Scriabine, Bartok, Messiaen, Benoît Menu, et puis vous, bien sûr, le temps d'un récit-récital qui tisserait le piano d'Aline Piboul et Boutès, qui est un bref texte paru en 2008 aux éditions Galilée.
Le temps d'un livre, le temps d'un petit livre, le temps d'un dernier petit livre voué à la musique, je veux faire porter l'attention sur la figure beaucoup plus méconnue qui est celle de Boutès. C'est ce que vous écrivez, Pascal Quignard, dans ce texte. Pourquoi fallait-il en terminer à l'époque avec la musique, ou en tout cas avec l'écriture de la musique ou sur la musique, et surtout, pourquoi fallait-il que cette fin soit portée par la figure de Boutès ?
Parce que Boutès, pour moi, et de plus en plus d'ailleurs, ça va expliquer pourquoi je retourne à Boutès, c'est la figure du plongeon océanique. C'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, Freud avait peur du sentiment océanique et se disputait avec Romain Rolland, qui lui défendait le nirvana indien. Et en vieillissant, la possibilité d'une immersion totale dans la nature, dans l'audition, dans la contemplation, comme si ça faisait revenir quelque chose de ce qui précède même l'enfance, fait que je suis de plus en plus habité par ce côté contemplatif. Alors quand j'ai écouté pour la première fois l'incroyable transcription de la mère de Debussy, que joue Aline Piboule de façon merveilleuse et incroyable aussi, là j'ai touché quelque chose comme l'océanique. L'amour comme océanique, malheureusement la mort comme océanique, mais aussi la contemplation comme océanique. Il rame, il file sur la mer. La voile est fermement tirée sur les drisses de la vergue. Un vent rapide les aide et pousse le navire. Le vaisseau s'approche de l'île aux oiseaux à tête de femme qui sont nommés en grec sirène. Tout à coup, une voix féminine, merveilleuse, s'élève. La voix avance sur la mer vers les rameurs. Elle provient de l'île. Aussitôt, ils veulent s'arrêter. Ils veulent entendre ce chant. Ils lâchent les rames. Ils se lèvent de leur banc. Ils détendent la voile. Ils vont chercher les pierres ancres. Ils s'apprêtent à déployer les amarres. Ils veulent rejoindre le rivage de l'île. C'est alors qu'Orphée monte sur le pont du navire et s'y assoit. Il pose sa carapace de tortue sur ses cuisses. Il tend avec force les cordes de la cithare qu'il a fabriquée chez lui en Thrace. Il frappe en s'aidant de son plectre un contre-champ extrêmement rapide afin de repousser l'appel des sirènes. Apollonios écrit que ce morceau d'Orphée est si bruyant que les oreilles résonnent du seul bruit du plectre. Maintenant, l'intensité et la beauté de la mélodie des oiseaux semblent reculer sur la mer. Maintenant, les 50 héros n'entendent plus avec netteté ce chant sidérant. Ils détournent leur regard de ces trois oiseaux vraiment bouleversants qui tendent leurs seins, qui élevaient si haut leur chant, qui tournaient vers eux un visage pour ainsi dire humain. Ils regagnent leur rang, ils reprennent leur rame. Déjà, ils frappent la mer de la même façon qu'Orphée frappe sa cithare pour donner un même rythme au mouvement de leurs mains. Déjà, la voile se gonfle. Déjà, elle apporte de nouveau son concours à la force de leurs bras. Déjà, le navire Argo s'éloigne de l'île quand, soudain, Boutès abandonne sa rame. Il quitte son banc, il monte sur le pont, saute dans la mer.
Merci beaucoup. Orphée, Ulysse plutôt aussi, qui lui va souhaiter écouter, mais ne souhaitera pas s'approcher de ces chants. Comment est-ce que vous comprenez, Pascal Quignard, que nous ayons oublié, d'une certaine façon, Boutès, que nous ayons oublié celui qui saute ?
Ça reste pour moi très mystérieux. Pour comprendre pourquoi Ulysse se fait attacher les pieds, se fait attacher les mains au mât et demande à tous ses marins de se boucher les oreilles, il faut bien qu'un jour il y ait eu un homme dévoré par les sirènes et par la beauté de leur chant. Mais curieusement, chez Homère et jusqu'à c'est pas moi qui ai découvert le mythe de Boutès a été rapporté par Apollodore, Apollonios, je veux dire, c'est un mythe que je n'ai pas découvert. Mais c'est vrai qu'il est occulté, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi il l'a été.
À propos de cet oubli, justement, Pascal Quignard, d'où vous viendrait, au fond, ce goût, ou cette dette, ou cet appel hein, des figures oubliées? Qu'est-ce qui vous lie à elles hein? Qu'est-ce qu'elles vous réclament? Qu'est-ce que Boutès vous réclamait, au fond?
Je pense que les conditions de l'enfance ont fait que j'ai vécu toute mon enfance dans un port entièrement détruit, c'était Le Havre, dont le maire actuel, d'ailleurs, Édouard Philippe, a souligné que ce n'était pas la destruction, à vrai dire, qui avait bouleversé les habitants du Havre alors. Ça a été les 7 ans pendant lesquels la ville, la municipalité, l'État ont hésité entre reconstruire Le Havre à l'ancienne, un peu comme Saint-Malo, ou bien le reconstruire à la moderne, comme finalement ça a été décidé. Mais pendant 7 ans, et malheureusement j'étais là-bas, ça n'était que ruines, que des rats, que des maisons éventrées, si bien que tout ce que j'ai écrit, essentiellement aussi le Dernier Royaume, ces livres-là sont comme... J'avais devant moi, je n'avais pas devant moi des maisons. Je suis né dans une atmosphère où je sentais bien qu'il s'était passé quelque chose. Je n'ai pas connu la guerre. Je n'avais que des restes, des détritus, de l'oublier, si vous voulez, et faire revenir les oubliés, faire revenir les marins, puisque c'était un port, faire revenir une atmosphère de naufrage, si vous voulez, de naufrageurs ou de naufrage, si vous voulez, habiter mon enfance.
Donc il y a bien sûr les sirènes, les oiseaux hein, qui appellent, on y reviendra, et puis il y a ceux qui entendent ou qui écoutent, on reviendra aussi sur cette distinction. Donc il y a eu Ulysse d'abord qui a voulu écouter et s'est fait ligoter sur son navire pour ne pas sauter. Et puis il y a évidemment sur l'argot, hein, parmi les argonautes, les rameurs, qui se bouchent les oreilles avec de la cire pour ne pas être déroutés, pour ne pas mourir. Il y a Orphée bien sûr qui prend... sa cithare et qui joue cette sorte de contre-chant, hein, on l'a entendu dans votre lecture, pour couvrir celui des sirènes et rythmer également le mouvement des rameurs. Et puis donc Boutès qui saute, qui se dresse, écrivez-vous, hein, qui plonge, qui veut s'approcher. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire que de plonger, que de se jeter à l'eau? Parce qu'on va revenir évidemment sur cette figure du plongeur que vous listez, que vous collectez dans ce texte. Qu'est-ce que c'est que cette action de plonger?
Qu'est-ce que c'est que cette action de quitter le rang, de démissionner de ses fonctions, de divorcer de celle avec qui on aimait, de quitter, de partir? C'est ça le fond. C'est le fait de ne plus prendre de précautions, de lâcher le bord du navire ou de lâcher le rivage, de quitter le rivage. Je pense là parce que à une phrase de Tabarly. Qui m'avait extraordinairement frappé dans le journal Le Monde, c'est une bien vieille édition du Monde, enfin, et qui demandait, je me suis souvent demandé, disait-il, qu'est-ce que ça me ferait de quitter à jamais le rivage, de voir disparaître le rivage. Et il répondait, rien. Ça m'avait frappé parce que c'était quand même... Eh bien, c'est ça, ce qu'est le mythe de Boutès pour moi. C'est le fait d'une sorte de dire adieu à tout, qui me paraît d'ailleurs être le propre de la vie, sans s'accrocher à quoi que ce soit qui vous enfermerait. C'est une leçon de... Il y a un autre mythe, si vous voulez connaître aussi complètement le fond de ma pensée, qui est sur l'amour absolu, l'amour océanique, qui est le mythe de Héros et Léandre. Héros est enfermé dans un phare au cœur de la mer de Marmara, et Léandre saute du rocher d'Abydos, plonge dans la mer. Lui, il y meurt, elle s'élance du haut de la tour, et comme un oiseau, en effet, comme un oiseau, elle rassemble ses ailes sur le corps de Léandre, et c'est un amour malheureusement mort, mais éternel, qui est dessiné dans ce mythe. Et ces mythes-là, je les trouve, moi, ils me fascinent. On ne peut pas justifier ce qu'on aime tant quand on aime beaucoup.
Peut-être qu'on ne peut pas justifier ce qu'on aime, mais peut-être justifier davantage ce avec quoi on prend ses distances, Pascal Quignard. Qu'on me permette, écrivez-vous, d'oublier un instant ces héros de la pensée occidentale, qu'on me permette d'oublier Ulysse, les mains et les pieds empêtrés dans ses ficelles. On comprend à vous lire rapidement que vous choisissez davantage Boutès plutôt que Ulysse, Boutès plutôt que Orphée. Je mélange un peu tout, mais néanmoins un mot peut-être sur Ulysse. Au fond, pour lequel on sent bien que vous n'avez pas forcément grande sympathie. Qu'est-ce que vous lui reprochez à lui et ses ficelles?
Oh, c'est pas la perversion des ficelles, même si c'est quand même très curieux comme scène de voir un homme nu entravé des pieds et les mains attachées au haut d'un mât. C'est presque une préfiguration d'ailleurs de ces scènes, la scène de Jésus et lui-même, comment dire, crucifié. Ce sont des scènes quand même un peu démentes. Et c'est pas ça du tout que je reprocherais. Non, je me souviens là, j'ai fait des études de philosophie avant 1968 à Nanterre, et j'avais un maître qui s'appelait Emmanuel Lévinas. Et Emmanuel Lévinas, je me souviens d'un jour de colère. Peut-être que ça m'a beaucoup compté pour moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces philosophes, disait-il, il parlait de Hegel, il parlait de à vouloir sans cesse revenir. Pourquoi veulent-ils le retour? Pourquoi Ulysse est-il hanté par le retour? C'est bien mieux de partir. L'extériorité, disait-il, c'est bien plus puissant que l'intériorité. Et ça peut se défendre. Les artistes sont plus, je pense, ou alors, lorsqu'ils sont nés dans un port, ceux qui sont fascinés par le départ plutôt que par le retour.
Plonger, malgré tout, ça n'est pas aussi, d'une certaine façon, un retour.
Ah, comme vous avez raison. C'est un retour impossible. Bien sûr, on ne peut pas retourner à l'étanchéité de la poche utérine dans laquelle on a été nourri. On peut retourner dans une part de son obscurité, dans une part de son silence. Et il est vrai que les écrivains ont ce trait très particulier qu'ils renoncent à l'oralité de leur langue pour se plonger dans le silence de l'écrit. Il y a là en effet un retour à un silence étanche, à une poche qui leur permet de vivre à côté de la vie, vivre plus profondément, mais aussi d'une certaine manière plus, enfin, moins socialement, en tout cas plus de même en effet que dans le monde du terrain, le fœtus est seul. De même, nous rêvons seuls, de même, l'écrivain écrit seul. Il y a là une poche de solitude qui est un retour, vous avez raison. Mais qui n'est pas un retour dans la mesure où le langage est là et que dans la poche utérine, il n'y a pas de langage.
Petit à petit, on va s'approcher de la musique, hein, qui est quand même aussi le cœur de ce texte de Boutès. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut écouter, c'est-à-dire plutôt entendre, donc s'approcher de la musique que seul?
Il y a beaucoup de sortes de musique. Moi, je ne peux m'approcher de la musique que seul. Et même, je vous avouerai que dans une salle de concert, la présence à mes côtés de voisins est quelque chose qui m'est pénible. Et même le fait de devoir retenir mes larmes est quelque chose qui me coûte. Donc je préfère écouter la musique seule. Et c'est vrai que les disques ont été une bénédiction, alors qu'avant, on était dans un monde où il fallait aller à l'église pour entendre un peu de musique le dimanche. Alors donc il y a beaucoup de musique, il y a de la musique sociale, il y a de la musique militaire que je déteste. Si vous saviez le nombre de musiques que je n'aime pas, c'est considérable. Mais il y a une musique qui naît de la nuit, qui fait appel, comment dire, qui somme tout le corps, qui ne cherche pas précisément à étouffer une autre musique ou d'autres bruits, comme la musique d'Orphée, comme la musique technologique très très bruyante qui est faite là, comment dire, pour assommer le crâne plutôt que pour émouvoir le cœur. Bref, il y a une musique, peu de musique, je dirais, il y a de la musique indienne qui me bouleverse. Il y a de la musique baroque, la musique qui est devenue intime dans le monde baroque pour dire sa douleur, qui a culminé en effet dans le romantisme aussi. Il y a la musique très moderne et très savante de nos jours qui moi m'émeut énormément. La dernière fois où je me suis retrouvé, comment dire, à Radio France, à l'intérieur de nous étions une centaine pour une œuvre que je fais avec Suzanne Giraud. Et lorsque les deux chœurs d'enfants se sont mis à chanter la mort de l'enfant, etc., je me suis dit, je ne vais pas pouvoir lire mon texte jusqu'au bout. Le chef d'orchestre va me. Mais si vous voulez, là, c'est l'émotion. Voilà le type de musique que j'aime.
Alors, j'imagine donc, d'une certaine façon, contre Orphée, il y aurait ça.
Ça correspond à ce que je disais, c'est vraiment sublime, parce que le rossignol, c'est vraiment mystérieux, ça n'est pas lié au soleil, ou alors c'est lié négativement au soleil, puisque c'est au cœur de la nuit qu'il se met à chanter. Comme je suis un insomniaque, à la campagne, je l'entends, mais pour moi c'est un plaisir supplémentaire, parce que, outre, comme le disait Olivier Messiaen, que c'est un maître de musique, c'est le maître absolu de la musique, que les hommes ne cherchent qu'à imiter un peu. Je n'ai pas à me lever à ce moment-là. Bon, je ne me lève qu'avant l'aube, c'est-à-dire avec les chants des rouges-gorges. Mais donc le rossignol est quelque chose de... C'est tout petit, c'est minuscule, ça pèse quelques grammes, ça a une puissance sonore insensée. Il y a des moments où on ne sait même plus si c'est un rossignol, tellement c'est une variété incroyable pour un gosier minuscule. J'ai eu une tristesse dans ma vie, c'est lorsque j'ai lu ces admirables souvenirs entomologiques de Favre, qui est quand même un merveilleux écrivain, qu'admirait d'ailleurs beaucoup Colette, qui est un prodigieux écrivain sur les animaux, et il prenait sa carabine et tuait les rossignols la nuit parce qu'il l'empêchait de dormir. Pour un naturaliste, j'ai trouvé ça épouvantable. C'est très, très émouvant. Vous savez, je suis un écrivain, donc les mots, pour moi, ne sont pas des mots, mais sont des noms propres. Et je cherche toujours le nom de chaque chose, d'où vient le nom de chaque chose. Et le mot rossignol, avec une longue histoire en français, mais vient du latin, lucignolus. C'est donc celui qui est la lumière. C'est une sorte d'ascète déjà, celui qui ne veut pas le jour. C'est un nom encore plus puissant que celui des chouettes effraies ou des rapaces nocturnes. On oublie ce caractère très, très sombre du rossignol, dont le mythe d'ailleurs, c'est un enfant dont la gorge est tranchée.
On entend d'une certaine façon hein, presque la fonction d'appel de la nature, en entendant notamment le rossignol, ce qui nous ramène à nos sirènes, hein, dont on oublie qu'elles ont la forme d'oiseaux, ces sirènes hein, que vous évoquez dans Boutès. Si la cithare d'Orphée dit « on rentre », au fond, que dit le chant des sirènes ?
Ah, là, bon, je vais... Pardonnez-moi d'être pédant, mais je vais vous citer le texte, je connais par cœur, d'Homère, le chant des sirènes, c'est Dur Ag Yon, vient ici. C'est le ici. C'est le chant de l'ici. Je pense que c'est vrai qu'il y a un caractère d'appel dans la nature. Et c'est vrai pour les oiseaux de l'aube, je trouve. Dans ce qu'on vient d'entendre du rossignol, il y a un chant de la présence. D'ailleurs, il varie. Ce chant-là qu'on a entendu, il varie énormément en essayant... Est-ce qu'il essaie de s'incruster dans la présence? Et je pense là à une phrase que Madame de Sévigné dit de La Rochefoucauld, qui m'avait beaucoup impressionné. Elle dit de La Rochefoucauld, on le reconnaissait à ceci, et son fils a le même travers, à savoir qu'il tâtait ses phrases dans l'air avant de les prononcer. Et bien là, on a l'impression un petit peu, pardonnez-moi de faire de ce rossignol à La Rochefoucauld, mais qu'il cherche l'espace dans l'air qu'il occupe. Et là, dans ce cas-là, c'est bien ici, comme le chant des sirènes le dirait. Et vous savez la fin de l'histoire des sirènes. Elles font la même chose que Héro devant Léander. Après qu'Ulysse a refusé de s'arrêter, les trois sirènes, l'une jette son tibia, sa flûte, l'autre jette sa cithare, l'autre, celle qui chante, se projette et se jette dans la mer. Elles meurent sur le détroit. Elles vont rejoindre, dans ce cas-là, quelque chose de l'ordre de l'ici et d'océanique, par une sorte de dépit d'ilmite. Mais moi, je crois que c'est plus profond, je crois qu'elles rejoignent la mer.
Vous qui êtes capable d'entendre muettement la musique, d'une certaine façon, Pascal Quignard, est-ce que vous l'avez entendu ou imaginé ou projeté, ce chant des sirènes, même dans votre, je sais pas, dans votre vie secrète peut-être, ce chant continu, comment est-ce que vous le figurez?
Comme vous avez raison de poser la question, j'y ai jamais songé. Et vous avez bien raison de poser la question et d'y songer surtout. Je n'ai aucune espèce d'idée. En plus, je vais vous dire, j'y ai toujours imaginé comme des épervières de mer, comme ces oiseaux qui plongent au fond de l'eau pour reprendre le poisson à l'intérieur de l'eau, comme les plongeons. Le plongeon lui-même est un oiseau. Si bien que ce sont des cris très, très âpres. Donc je n'ai pas imaginé la beauté de ce chant. Même quand j'étais devant les rochers de... devant Capri, devant les rochers des sirènes. Là, c'est une autre part, c'est un autre mythe. Là, il se transforme en rocher, avec le bruit de la mer qui les frappe. Non, je ne sais pas quel est le musicien qui serait. Peut-être Scriabine, oui. Peut-être, je ne sais, mais je n'ai pas songé à ça.
évoquez en tout cas dans Boutès, Pascal Quignard, enfin vous citez Apollonios de Rhodes, pour qui la voix des sirènes est inévitablement soprano. Par quel, j'allais dire, par quel mystère ce chant continue, donc ce chant des sirènes, serait inévitablement ou aurait inévitablement à voir avec le féminin?
Il faut presque prendre pour bien répondre la question exactement à l'envers. Pourquoi la musique a-t-elle imposé très tôt la castration des garçons afin de préserver leur voix d'enfant, la beauté de leur voix aiguë et soprano d'enfant? Alors là, on approche à l'autre question. Pourquoi est-ce la voix aiguë qui paraît la plus belle? Avant que nous parlions, non, plutôt avant même que nous ayons le souffle, avant même que nous pulmonions, dans le ventre de notre mère, nous entendons une voix qui résonne. Et c'est la voix de notre mère, elle est donc toujours soprano. C'est elle qui fait le lit de tout ce qui nous émeut au son de la musique. Et c'est pour ça, là je vais préparer une lecture, je prends de l'homme aux trois lettres. Mais dans le cas précis, je rajoute toujours, imposer à ceux qui nous écoutent uniquement une voix masculine, je trouve ça fastidieux. Et je prendrai deux ou trois lamenti splendides du monde baroque uniquement pour la beauté de la voix féminine. C'est pas moi qui choisis, vous voyez, c'est dans l'humanité, c'est le souvenir, c'est la nostalgie qui choisit la voix féminine comme son référent.
C'est ce que dit aussi, d'une certaine façon, ce qu'on écoute tout de suite. Un extrait des Enfants du Marais, une composition de Suzanne Giroux qui avait été créée sur France Culture en novembre dernier à partir du texte de votre Pascal Quignard, Le Chant du Marais. Qu'est-ce qu'on entendait précisément là?
Oh, c'est un passage merveilleux de Suzanne Giroux. C'est à pleurer de beauté. C'est le moment, c'est très proche de ce dont nous parlions. Ce sont deux enfants dans les concours de chant pour les fabriques et pour les cathédrales et des temples, qui se font des concurrences, et l'un perd sa voix, le catholique, et celui qui gagne le concours, qui est protestant, il le tue sur le rive de la Seine. Et c'est le chant sur la mort de l'enfant, qui dit « Je ne suis pas mort, je suis disparu », en gros. Et cette disparition, c'est la musique même, qui coule le long de la Seine et qui va jusqu'... Vous l'imaginez bien, jusqu'au port du Havre.
Donc au fond, la figure du plongeur, telle qu'incarnée par Boutès et par bien d'autres, je le disais tout à l'heure, Pascal Quignard, vous listez, vous revenez, vous rythmez votre texte avec d'autres... plongeons, d'autres plongeurs, je pense notamment à Sappho. Cette figure-là, celle du plongeon, en quoi est-ce qu'elle vous permet à vous de donner, alors dans les pas d'Apollonios de Rhodes, mais de donner une définition possible de la musique?
Oh, je ne sais pas si je suis capable de donner une définition possible de la musique. Ce que j'espère simplement, c'est de faire sentir qu'elle est pour moi, en effet, la référence pour les arts. C'est le seul art dont, qui soit immédiat, qui n'a pas besoin de médiation. Bien sûr, il faut les instruments. Enfin, cela dit, non. Quand la chanteuse chante, quand la sirène chante, c'est son corps qui chante, il n'y a pas de médiation, qui enveloppe aussitôt, qui engloutit aussitôt, comme l'océan. La musique, j'ai osé écrire cette phrase, sans la musique, certains d'entre nous mourraient, parce que c'est quelque chose qui nous, dont la sensorialité, dans la douleur, dans la beauté est absolument nécessaire pour comprendre les choses.
Dans le texte, Boutès, Pascal Quignard, et dans les mots d'Apollonios de Rhodes, il y aurait donc deux types de musique qui seraient donc la musique de perdition, hein, qui serait figurée justement par le chant des sirènes et par le plongeon surtout de Boutès. Côté Boutès, donc musique, disons, animale, hein, celle qui fait sauter par-dessus bord, et puis la musique orphique, dites-vous, collective, articulée, séparée, hein, par opposition au chant continu des sirènes. Est-ce que ce mouvement-là, est-ce qu'on pourrait se risquer à voir cette opposition-là, qui au fond est aussi une opposition qui définit la musique, est-ce qu'on pourrait se risquer à transposer cette opposition-là en littérature ?
Comme votre question est difficile, laissez-moi le temps d'y réfléchir un peu avant de pouvoir y répondre. Mais c'est-à-dire que non, si vous voulez, ou plutôt, oui, bien sûr, mais l'oralité ne permet pas de distance. Elle exige forcément un jeu, un tu, comme nous parlons l'un devant l'autre, nous échangeons les personnes, nous neutralisons les sexes, puisque le jeu et le tu ne sont pas sexués, et c'est ça qui fait le caractère très, à mon avis, très maudit, très curieux du langage, très curieux du langage. Et cette invention peut être définitoire, c'est l'invention de l'écriture. Soudain, ce qui allait de bouche à oreille s'éteint, et on s'est mis à aller de la main à l'œil. Et c'est la littérature. La littérature est la mise au silence de la langue. Ça n'est donc pas un emploi de la langue normale, c'est une... Et sans doute, me semble-t-il, la musique de perdition. Comprenez le mot perdition. J'ai fait pendant des années, jusqu'à sa mort, des spectacles de buteau, uniquement pour la beauté de... Ce sont en fait, comme le faisaient les vieux, les anciens chamans de Sibérie, une danse par laquelle on essaie de perdre conscience, sur laquelle on tombe sur scène, les yeux se révulsent. C'est d'une beauté absolument insensée. Ce sont des expériences qui ne sont pas extrêmes, ce sont des expériences d'abandon, si vous voulez. Abandon, c'est mieux que perdition. Mais on ne peut pas s'abandonner un peu, il faut s'abandonner complètement, on ne peut pas s'abandonner avec des ficelles, vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment plonger. Là, on est au cœur de ce que je cherche à dire. Et la même chose dans la littérature, qui est quelque chose qui, tout à coup, perd le visage de l'autre. La littérature est sans altérité. La littérature est un océan aussi.
C'est au fond ce que vous voulez dire quand vous écrivez, Pascal Quignard, toujours dans Boutès, « Rares, très rares les humains qui se jettent à l'eau pour rejoindre la voix de l'eau, la voix infiniment lointaine, la voix, pas même voix, le chant pas encore articulé qui vient de la pénombre, quelques musiciens, quelques écrivains plus silencieux que d'autres, dans des pages plus muettes encore. »
Ah oui, je trouve ça très bien. Je souscris.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Ulysse, ligoté, ficelé, hein, chez Homère, Orphée, assis chez Apollonios de Rhodes, Boutès, donc, qui est, lui, se dresse, qui court sur le pont, qui saute, qui danse, d'une certaine façon. Ce qui vous donne, Pascal Quignard, l'occasion aussi de quelques lignes sur l'écoute de la musique. L'écoute occidentale, la musique se joue assis, s'écoute assis. Hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant à quel point c'était compliqué aussi pour vous d'assister à un concert avec d'autres. Idéalement, comment est-ce qu'il faudrait écouter ou entendre, hein, le récital de samedi que vous allez donner, le récital de demain, que vous allez donner chez Montaigne, hein, dans le cadre du festival Littérature en Jardin.
Votre question est très belle, très ahurissante aussi, mais je la comprends très bien. Je dis que c'est amusant parce que finalement, quand Freud a inventé la psychanalyse après l'hypnose, il n'a pas tellement songé à ce problème. En fait, il a tout de suite inventé un lit. Pour écouter pour moi la musique, je ne pense pas être seul dans ce cas. Il faut qu'on puisse oublier son corps. La position assise n'est pas toujours très agréable, je trouve, pour pouvoir oublier son corps. Un fauteuil transatlantique ou bien un lit me paraissent encore mieux pour pouvoir être uniquement adonné à la musique. Je ne sais pas si dans le château de Montaigne, il y aura des chaises longues en toile, de quoi je mêle d'ailleurs, non, mais pour écouter l'admirable travail d'Aline Piboul, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir s'oublier. Il y aura l'obscurité, ça, on fera le concert dans l'obscurité, donc déjà, il y aura une extinction un peu de ce qui pourrait perturber le corps.
Qu'est-ce qui lie, au fond, Boutès et Montaigne, hein? Vous qui annoncez, hein, dans le programme Pascal Quignard, Montaigne, c'est Boutès.
Ah oui. Cesser d'être assis, il y a un mot pour ça en latin, c'est la dissidence. Celui qui est assis, tout à coup, il se lève, il est dissident. Mais on peut être dissident d'une autre manière, on peut plonger, mais aussi on peut tomber. Montaigne est devenu Montaigne, pas du tout quand il était maire ou quand il était, comment dire, un magistrat extrêmement ambitieux ou qu'il devenait l'espion du roi dans les cours d'Europe, mais lorsqu'il a eu cet accident par lequel il a été désarçonné dans la campagne autour de son château. Il a une expérience de vie-mort qu'il a eue là, un peu d'ailleurs comme Saint Paul a été lui aussi, comment dire, cette expérience de lumière qu'il a connue. L'admirable peinture dans les pattes d'un cheval du Caravage est une chose absolument somptueuse. On ne dit pas patte pour un cheval, dans les jambes d'un cheval, pardonnez-moi. Ça m'est arrivé aussi avec des événements pulmonaires, d'hémorragies assez violentes. Lorsqu'on a un tout petit peu plongé dans la mort et qu'on en revient, le monde en est différent. Et en plus, Montaigne, c'est comme l'enfant que vous avez entendu chanter de Suzanne Giraud. Montaigne avait conçu les essais pour mettre dans leur sens, comme un tombeau, comme un mausolée, le texte absolument admirable d'Étienne de la Boétie, le Contre 1. Finalement, il a eu la lâcheté, il ne l'a pas fait, c'est un grand regret, parce que le sens même de son œuvre, c'est ce petit texte de dissidence absolue, qui cherchait même d'ailleurs à tuer tous les tyrans, qui était celui de son ami la Boétie.
On pourrait écouter la voix d'un autre plongeur qui aurait pu s'ajouter à la liste de ceux qui se jettent à l'eau, hein, qui quittent les rameurs. On l'écoute.
Wo flammt ein Wort, das für uns beide zeugte, du ganz, ganz wirklich, ich ganz warm. Stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft, für niemand und nichts stehen, unerkannt für dich allein, mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache. Erdwärts gesungenen Masten fahren die Himmelswracks. In dieses Holzlied beißt du dich fest mit den Zähnen. Du bist der liedfeste Wimpel.
Je vous en donne la traduction. Ce sont donc trois petits poèmes, pardon, si le premier vers du premier poème en a été escamoté. Trois petits poèmes de Paul Celan, lus par Paul Celan, donc dans une traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Je te connais, tu es celle qui ploie, et je suis moi, le transpercé sous toi. Ou la flamme d'un mot qui nous profère, tous deux, toi vraiment réel, moi chimère. Rester là, tenir dans l'ombre de la cicatrice en l'air, rester là, tenir pour personne et pour rien, non connu de quiconque, pour toi, seul, avec tout ce qui en cela possède de l'espace, et même sans la parole. Avec leurs mâts chantés vers la terre, naviguent les épaves de ciel, dans ce champ de bois, tu t'accroches avec les dents, tu es le fanion qui tient le champ.
La voix de Paul Celan, lisant en allemand, donc là pour le coup on est vraiment dans le « je » et le « tu » que vous évoquiez tout à l'heure, Pascal Quignard. Paul Celan qui se jette dans la Seine, probablement du pont de Mirbeau en 70. Paul Celan, plongeur certainement, mais pas débarrassé de l'histoire, que vous rencontrez, je crois, par Louis-René Desforêts, juste avant sa disparition, autour de questions de traduction. Vous qui n'êtes pas sûr, Pascal Quignard, d'aimer entendre la voix des poètes lisants, en tout cas pas sûr de vouloir prendre le risque d'y entendre des accents biographiques, qu'est-ce que vous entendez dans celle-là de voix? Peut-être un excès de biographique, justement, ou un excès d'histoire?
J'ai entendu que c'était profondément un traducteur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la même voix en français quand il enseignait à la rue d'Ulm, qu'il l'avait en allemand, et sans doute en yiddish ou en lituanien, était-ce différent aussi. Et c'est un peu normal, puisqu'il s'est voulu appeler en français Celan pour sceller cette possibilité d'être reconnu, au-delà de ses morts. C'est Sarah, je me souviens, et pas André Duboucher, qui m'a annoncé la mort, quand je suis arrivé à l'appartement, de Paul Celan. Ça a été pour nous tous quelque chose de très important. Il n'était pas connu à l'époque. C'était un répétiteur d'allemand, il n'était pas... Et vous savez, le chant que vous avez entendu tout à l'heure dans Suzanne Giraud, je me souviens que c'est André Duboucher surtout qui m'avait fait partager... André Duboucher nous avait fait venir une fois, Paul Celan et moi, pour nous citer un vers de Malherbe, qui est, je crois, « Je ne suis pas absent, je suis mort ». Et, bon, c'est difficile de parler sans les importuner de parler. C'est plus facile d'écrire sur les morts que de parler d'eux. Parce que c'est pas toujours bien de survivre quand les morts étaient tout à fait exceptionnels.
Puisqu'on parlait de traduction, Pascal Quignard, peut-être pourriez-vous nous lire la traduction de... un extrait de la traduction de l'un de vos propres poèmes, qui est un poème en latin, écrit en 1976, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas paru en 1976, qui a donné lieu à de nombreuses traductions, notamment dans un ouvrage en particulier, hein, avec des traductions de Pierre Alféri, je ne vais pas tous les citer, mais de Pierre Alféri, de Michel Deguy, de Christian Prigent, je crois aussi, d'Emmanuel Ocard, et je crois que c'est la traduction d'Emmanuel Ocard que vous avez choisi de faire entendre.
Oui, forcément, puisque mon ami Emmanuel est mort, c'était un ami extraordinairement proche, qui a beaucoup compté pour moi. Cette traduction a été écrite avant. Il fallait après, comment dire, avec après sa bras, avoir le courage de publier un livre qui paraissait dans ce cas-là extrêmement long pour quelque chose qui était composé à la main. Alors, il fallait quand même d'énormes quantités de bouteilles de vin et de courage pour pouvoir arriver à publier ce livre. Mais ça a été un livre qu'on a fait ensemble dans les années 71-72, je crois. Alors, en latin, bien sûr, dans mon poème, ça s'appelle Inter aerias phagos. De l'air entre les branches des êtres. Être sujet à la peur. Je parle en larmes, avec colère, le dehors, le sans langage. Plus loin que le bout du champ, en forêt, pas de silence, pas de tumulte. Sujet à la peur, il s'est retourné pour voir. C'est un aveuglant chaos. L'excès de végétation compromet la récolte. Une région sauvage, ils ont pris un sentier abrupt qui monte dans le plus complet silence, escarpé, rien qui soit vu. Ils ne peuvent pas couper le brouillard avec le couteau, dire « fait un bruit terrifiant ». Sans tumulte, mais rien qui fût tranquille. Le silence des grandes colères est identique au silence des grandes terreurs. Tandis que nous parlions à fui, prend, ils ont pris le sentier mentionné plus haut, dans les régions qui sont extérieures. De même, quand nous prétendons imposer le silence, après que nous avons retenu notre souffle en serrant les dents, comme nous les rassemblons sur le bord des lèvres, alors avec quelle éloquence nous faisons retentir « st ». Sag, c'est rugissement. Silence propre à la nuit, elle est entraînée en arrière. Sag, c'est rugissement. C'est le mot qui convient pour prendre le bruit que font les vagues de la mer quand elles résonnent. Si je puis dire, c'est comme si on entendait un frémissement venant de la haute mer.
Merci beaucoup. Ce poème-là, Pascal Quignard, vous l'écrivez en latin. Qu'est-ce que cette langue-là pouvait pour vous à ce moment-là?
D'abord, la langue orale. Ensuite, la langue mise au silence dans l'écrit. Ensuite, la langue qui a fondé la langue orale qui a été mise en silence, le latin, qui est la mère de la langue française. La littérature aime à se cacher, d'espace en espace, elle s'enterre comme ça. J'avais besoin, si vous voulez, pour crépiter, ce qui n'allait pas dans ma vie, les abîmes de ma vie, de les enfouir sous des mots plus originaires que ceux qui auraient pu être employés dans un entretien psychiatrique à l'hôpital Sainte-Anne.
C'était aussi une façon de quitter les rameurs.
Ah oui, ça, les pauvres traducteurs, ils ont ramé lorsqu'à pour pouvoir se. Oui, c'était certainement. Mais c'est ce que je disais un peu aussi quand même du chant du rossignol. C'est adressé à personne. C'est une façon de s'incruster dans le coin de nature où on se trouve.
Alors le poème dont vous venez de nous donner la traduction, Pascal Quignard, on devrait le retrouver dans une encore nouvelle traduction en Pléiade, puisque va paraître une anthologie bilingue de poésie latine dans laquelle vous figurez. Boutès, dont nous parlions, on va le retrouver également à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, puisque s'ouvre une exposition le 30 septembre, dans laquelle on trouvera le manuscrit de Boutès, ou en tout cas, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de versions, ou d'étapes en tout cas de travail de Boutès, qui était partie d'une conférence au départ en 2005, et avant de devenir un livre. Cette exposition, elle s'est montée à la suite d'un geste de don, d'abandon, diriez-vous, puisque vous avez légué vos archives, vos manuscrits, ou du moins ce qu'il en reste, puisqu'on sait que vous détruisez l'essentiel de vos manuscrits, sauf Boutès.
qui figurera donc dans cette exposition. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter sur Boutès justement et sur ses versions. Vous détruisez vos manuscrits pour la plupart, conservez quelques-unes des feuilles sur lesquelles vous pouvez, un peu à la façon d'un palimpseste, vous pouvez éventuellement dessiner, peindre, enluminer, donc vous en avez gardé quelques-unes, et parfois c'est l'image qui se glisse, qui se cache dessous, sous le texte. Pour Boutès, est-ce qu'il y a une première étape qui est une étape imagée avant l'écriture ?
Tout à fait, tout à fait. Il y a souvent une musique et parfois une image qui est comme dans les rêves, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup de sens et qui, en fait, je suis arrivé à ce texte, au texte définitif de Boutès, lorsque j'imaginais tout bêtement que le plongeur de Paestum, c'était Boutès. Cette image est tellement belle à Paestum, ce plongeur qui a quitté l'acropole, qui a quitté le mur d'enceinte du temple et qui n'a pas encore atteint l'eau de sa mort, ce petit corps nu, ce petit sexe si nettement dessiné, ses mains qui sont jointes, je trouve cette peinture absolument sublime et un beau moment, elle a coïncidé avec le visage de Boutès qui se jette dans la mer tyrrhénienne.
On pourrait s'arrêter là peut-être, alors puisqu'on est dans votre bibliothèque. Je veux juste peut-être me risquer à une dernière question. Vous racontez dans Boutès, Pascal Quignard, la mort de Caton chez Plutarque, le moment où il va préparer son âme pour se donner la mort. Et il veut choisir un dernier livre pour passer le plus agréablement possible sa dernière nuit. Et il choisit le Phédon, qu'il va lire trois fois, ce qui va d'ailleurs lui donner envie de mourir le plus rapidement possible. Est-ce que c'est un geste que vous pouvez comprendre, que vous avez imaginé ? Est-ce que vous savez quel livre vous choisiriez s'il vous était donné de connaître votre disparition ?
J'ai fait un pèlerinage en Chine pour aller à sa tombe. Je pense quand même que Chuang Tzu, ce livre a énormément compté pour moi. Mais lui, alors, il a demandé simplement, comme un bon taoïste, dans la forêt du Hainan, d'être suspendu aux branches des arbres pour que les oiseaux le dévorent.
C'est la fin de cette émission préparée par Thierry Beauchamp, réalisée par François Connac à la technique Edouard Rubinstein. Rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit. Pour être tout à fait complète, nous avons également entendu au cours de cette heure un extrait du poème de l'extase de Scriabine et l'oiseau d'Idariel de Benoît Menu, extrait de l'album Les Îles. Alors la liste des actualités de Pascal Quignard est très copieuse. Je voudrais simplement signer la parution de L'Homme aux trois lettres, 11e volume du Dernier Royaume, paru chez Grasset, au menu de la grande table d'Olivia Gesbert. Ce sera le 7 septembre sur France Culture. Vous trouverez tous les détails sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster sur franceculture.fr. Bon après-midi à tous et à toutes, et tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.